On m'entend?
Chers frères et sœurs, c'est l'heure de prendre maintenant ce moment dont on poursuit le 1 Corinthiens. On arrive tout doucement à la fin de notre lettre. Donc on a fait une petite pause de Corinthiens, mais là on reprend. La dernière fois qu'on avait laissé notre église, il y avait eu un rappel sur la pureté de l'évangile. Samuel nous avait rappelé la pureté de l'évangile apostolique tel qu'il avait été annoncé. Le besoin de se rester accroché au témoignage. Et ce matin, je voudrais partager avec vous Christ ressuscité, notre espérance. Voilà, gros, comment on pourrait, j'allais dire, annoncer ce que Paul va terminer. Le Seigneur est sauveur ressuscité, l'espérance dans le corps de Christ. C'est vraiment l'espérance, c'est 1 Corinthiens 15 et 13 à 58. Avant de relire la parole, c'est vrai qu'on dit que c'est parfois difficile de résister à nos influences. Résister à la mode, résister aux différents courants qui existent autour de nous. Comment l'Église, comment les croyants peuvent résister à tout ce qui est autour? Comment on est influencé malgré nous, en vivant dans le monde, par ces courants? À l'époque des Corinthiens, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. On a des luttes, et aujourd'hui, il y a même des gens qui sont payés, on appelle ça des influenceurs, ça n'existait pas il y a quelques années. Et en préparant ce message, je me suis renseigné de voir à quel point ces personnes sont payées juste pour influencer des millions de personnes qui les suivent. C'est des personnes qui ont des voix, qui sont même pas... Alors pour moi, c'est pas un métier, mais voilà, ça c'est chacun regarde, mais je me dis, c'est incroyable à quel point on aime suivre des modèles, et ces modèles nous influencent jusqu'à de notre vie, et jusqu'à ce qu'on pense. On pense différemment, on va avoir des pensées différentes, on va avoir une manière de vivre différente par rapport aux influences. Et ne croyons pas que nous ne sommes pas influencés. Nous sommes influencés, nous aussi. Et c'est ce qu'on voit. Nos proches peuvent nous influencer, la société peut nous influencer, les différents réseaux sociaux, nos aînés. On peut suivre quelqu'un qui nous a marqué et refuser de voir parfois l'influence qu'il peut avoir sur nous, en bonne ou en mauvaise influence. Est-ce qu'on se laisse nous influencer par la société, par nos dogmes, par nos valeurs? Moi, j'ai grandi dans certaines églises, j'ai certains dogmes, mais est-ce qu'ils sont bibliques? Et parfois, quand on interroge quelqu'un, pourquoi tu penses ça? Ben parce que l'église l'a dit. Mais est-ce que la Bible l'a dit? Vous voyez, parfois, on croit des choses que la Bible, elle a dit, la Bible l'a pas dit. Et c'est assez intéressant de se pencher là-dessus, parce que l'influence de là où on est, et même l'influence de l'église, peut parfois nous induire, pas sciemment en erreur, je dis pas que c'est fait exprès, je dis juste qu'on a besoin des fois de prendre du recul et d'être ensemble pour retenir ce qui est bon. Et comment ça conditionne notre vie? Et là, on est en plein dans le cœur de ce que Paul reprend dans les Corinthiens. Leur manière de croire changeait la manière de vivre. Un croyant peut-il souffrir? Ça, c'est tout ce qu'on... aujourd'hui qui peut exister pour ceux qui connaissent le mouvement de l'évangile de prospérité où le chrétien ne doit pas souffrir. S'il souffre, c'est de sa faute. Donc si on souffre, ben, on n'est pas un chrétien. Alors voilà, je caricature, c'est dans les pires extrêmes. Est-ce que Jésus est corporellement ressuscité? Ça c'est important, des gens disent « Ah, il est ressuscité, mais pas dans un corps ». Et ça change la manière de vivre, et les Corinthiens étaient influencés. Les Corinthiens étaient influencés par ça. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, Bible en main, on va reprendre comment Paul défend la réalité de la bonne nouvelle, Christ ressuscité, corporellement, face à certaines dérives de l'église de Corinthe, et on va voir comment ça peut être interpellant aussi dans nos vies. Donc je vais lire 1 Corinthiens 15, 12 à 58, vous pouvez lire dans vos petits livrets, mais ça sera aussi affiché, oh, si vous arrivez à lire. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Tiens, pardon. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, chacun en son rang. Christ comme prémice, puis tous ceux qui lui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est le Père, le Dieu et le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il a dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Et lorsque toutes les choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous cette heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans ces vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse, quel avantage me revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez en vous-même, comme il est convenable, et ne péchez pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est point le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou quelques semences. Puis Dieu lui donnera un corps comme il lui plaît, et chaque semence lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des quadrupèdes, celle des animaux, celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé animal, il ressuscite spirituel. Il ressuscite un corps spirituel. S'il y a corps animal, il y a corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est venu d'un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même, nous en porterons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et tous nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance de péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Jusqu'ici, la parole de Dieu, un grand passage, donc je vais vous retenir quelques heures pour tout vous dire. Donc on l'a vu, hein, c'est un contexte, Paul corrige. C'est une lettre de correction, il corrige depuis le début. Hein. Donc là, il continue à corriger une des erreurs des Corinthiens. On en avait déjà parlé à Pâques, hein. Je renvoie au message de Pâques. Hein. Là, je vais passer brièvement dessus. Mais le message de Pâques, je m'étais bien arrêté sur la résurrection corporelle, en fait influencé par la pensée grecque, parce que les Corinthiens étaient influencés par la ville de Corinthe était beaucoup influencée par la pensée grecque. Ils s'étaient convertis dans la Bible, mais pour eux, le corps était quelque chose d'horrible pour une certaine partie de l'Église. Vous savez que la pensée grecque, tout ce qui est corps, tout ce qui est charnel, c'est pas beau. Le corps est une prison pour l'âme, parce que tout ce qui est esprit, ça c'est bien. Tout ce qui est corps, c'est pas bien. Donc la pensée que Christ soit le Sauveur et Seigneur ressuscité dans un corps les gênait. Et comme ça gêne, comme on fait toujours, on arrange la Bible à ce que nous on aime bien. Donc ils disaient non, non, les morts ressuscitent pas, voilà, c'est pas ça, vous avez mal compris ce que voulait dire Paul. Et Paul écrit, et il dit non, non, je place l'espérance et la véracité de l'évangile que je vous annonçais, hein, ça c'est aussi le message que notre frère Samuel avait amené, c'est dans la résurrection corporelle de Christ que ça se place. Attention, il leur dit attention, c'est important. La résurrection corporelle de Christ, elle rend la foi vivante, vraie ou vaine. Et là, c'est ce qu'il leur dit. Hein. Il leur dit, ça c'est le premier passage, hein, donc Corinthiens 15, 12 à 19, là j'ai mis juste le verset 12. Et il leur dit, écoutez, s'il n'est pas ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Or, si l'on prêche, hein, donc les apôtres, que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'est point de résurrection des morts? Parce que s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et là, Paul, il dit, attention, c'est important comment vous croyez. C'est important comment vous allez vivre avec cet élément. Paul souligne l'importance de la résurrection de Christ dans son corps. Et c'est ce qu'il va défendre après. Hein. Mais là, il va déjà le défendre dès le début en disant, attention, Christ est ressuscité dans un corps, parce que notre prédication, sinon, elle servirait à rien. Elle servira à rien. Et je vous renvoie à tout ce qu'on avait vu à Pâques. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, moi je vous annonce n'importe quoi, et en plus je mens. Enfin, c'était ce qu'il y avait avant. Il dit, en plus je suis un menteur. Parce que je dis que Dieu a ressuscité des morts, il a ressuscité son fils, mais s'il ne l'a pas ressuscité, donc en plus je suis quelqu'un qui ment, je suis quelqu'un de pas crédible. Mais il dit, si je vous annonce cette vraie, cette véritable évangile, c'est ce qu'on avait vu, attention les Corinthiens, attention, nous ne sommes pas des faux témoins, dit Paul. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité dans un corps. Et c'est ça qui est important pour eux. Parce que sinon, ils vont finir par croire, et c'est ce qu'on avait déjà vu, hein. Ils allaient faire de leur corps n'importe quoi. Ils allaient fréquenter des prostituées sacrées parce qu'ils disaient, le corps, c'est pas grave. Je peux faire ce que je veux de mon corps. Alors que le corps est important. Vous voyez, la manière de vivre, notre vie chrétienne dépend de ce que nous voulons croire. Nous ne devons pas vivre ainsi, frères et sœurs, mais n'ayons l'espérance, et je le crois ce matin, que chacun d'entre nous, on a l'espérance que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant, dans un corporellement ressuscité, assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Parce que ça va impliquer notre manière de vivre dans notre corps. Et qu'on sait qu'on a été scellés, nous, hein, du Saint-Esprit. Donc voilà, je vous renvoie à la suite, enfin à tout ce passage de Pâques, pour en savoir plus sur la corporalité de Jésus. Mais après, il poursuit, hein. Il va poursuivre son exemple, hein, il va dire, attention, maintenant Christ est ressuscité dans un corps, et il dit, écoutez ce que je vais dire maintenant. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, à Christ et Adam, il prend les deux comme exemple. 1 Corinthiens 15, 20 à 18, là, je vous ai mis le verset 22. Il explique, hein, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Voilà, il l'affirme au verset 20, il est les prémices, donc il est le début. Il est le début de ceux qui sont morts. Et après, il va écrire ce verset, et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul qui est venu inaugurer une nouvelle humanité sauvée, un nouveau peuple. Christ, c'est un nouvel Adam. Il est en train de dire, Adam, par sa chute, il était représentant de notre humanité. On a tous péché en Adam parce qu'il nous représentait. Vous savez, on avait déjà parlé de la représentation dans la Bible. Adam représentait l'humanité, tout le monde, comme aujourd'hui notre président représente tous les Français, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, quand il prend son habit de président, ben il représente l'idée de la France, il représente la France. Et s'il dit on va en guerre, ben toute la France est en guerre, même si nous n'a pas forcément envie d'y être. Il représente, il a l'autorité. Et Adam avait cette autorité, et au travers de sa faute, ben on est tous devenus coupables. Et il dit, et voilà, mais maintenant Christ, en Adam, on est tous morts. Mais en Christ, lui, il a représenté une nouvelle humanité. Et si vous vous associez à Christ, corporellement ressuscité, alors vous revivrez de la même manière que vous étiez mort en Adam, vous ressusciterez en Christ. Paul démontre du coup la nécessité de la résurrection. C'est une belle œuvre que Dieu a faite. On était condamnés à disparaître. pécheur, cœur rebelle. Un cœur rebelle à Dieu, hein, c'est ça. Hein. On voulait notre indépendance, on la veut toujours. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, parfois, mon cœur, il veut son indépendance. Et cela, l'apôtre, il dit, voilà, il y avait Adam, il y a Christ. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau en Jésus-Christ, ressuscité corporellement. Il ouvre une nouvelle page, un nouveau testament, une bonne nouvelle. Il dit, voilà, il va se faire un peuple, mais un peuple qui n'est pas lié, j'allais dire génétiquement, un peuple lié à un temple, lié à une personne, lié à une œuvre. Il dit, c'est un peuple qui est universel. Christ est celui qui a réconcilié Dieu et les hommes par son œuvre. On l'a chanté. Le péché a été payé. La dette qui était sur moi a été payée par Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection, il nous ouvre maintenant les cieux. Christ offre aux chrétiens de Corinthe, aux croyants de Corinthe, la possibilité d'être réellement à l'image de Dieu. C'est ce qu'il va dire après. Hein. Il dit, le dernier ennemi, c'est la mort. C'était la mort, cet ennemi. Il dit, aujourd'hui, cet ennemi est détruit. Alors, on ne le voit pas encore. Il faut par la foi qu'il faut l'accepter. Hein. La mort, elle existe toujours. Nous, encore, on la côtoie. Mais elle n'est pas une finalité. Et c'est la glorieuse espérance des enfants de Dieu. Que ceux qui sont morts en Christ, eh ben, revivront en Christ aussi à leur venue. Il dit, c'est ce pur évangile que vous devez croire. Il relie à ce qu'il a annoncé tout au début, hein, que vous aviez vu au verset 1 à 12. Il dit, c'est ça la véracité de l'évangile, c'est ça la pureté de mon évangile. Et après, il y aura les questions sur les corps, on va y revenir. Hein. Mais il dit, c'est déjà l'espérance, c'est ça, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices, et il s'adresse à des gens qui connaissaient les prémices, savent ce que c'est. Aujourd'hui, on est moins agriculteurs. Mais... les prémices, il est l'espérance, et c'est lui qui est le premier en tout. C'est des belles promesses que Paul leur donne. Il leur dit, en Christ qui est ressuscité, vous ressusciterez. C'est aussi notre espérance aujourd'hui. C'est aussi notre espérance, enfin je l'espère. Dans ces versets écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, on voit cette vérité de l'évangile, on voit la vérité que Paul défend l'évangile. Il dit, vous n'êtes pas venu adorer, enfin ce matin, vous n'êtes pas venu adorer, louer, prier un Seigneur qui est mort. Vous êtes venu louer, adorer, prier. Seigneur qui est vivant, et ça change tout, qui est venu nous rejoindre, qui est mort, mais qui est ressuscité corporellement et qui écoute, aujourd'hui assis à la droite du Père de manière mystérieuse, dans son corps de gloire, nos louanges, nos prières, et ça c'est incroyable. Quand on y réfléchit, on se dit c'est incroyable, c'est la réalité de l'évangile, et voilà pourquoi dérangeait les Corinthiens, dans leur manière de voir. Dans leur manière de voir, on est porteuse. Dire on est porteur de quelque chose de beau qui va au-delà de ce que nous pensons. Et du coup, il leur dit, comme Christ est vivant, comme Christ est ressuscité corporellement, comme vous avez cette glorieuse espérance de chacun un jour être ressuscité, alors il y a selon votre rang, je vais pas m'arrêter là-dessus ce matin, mais selon votre rang, ça laisse entendre que voilà, chacun selon le fruit qu'il aura porté, chacun sera selon son rang. Mais il dit voilà, maintenant vous savez que Christ est vivant. Ça, c'est le troisième point. Il dit, Christ est vivant. Ben, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Et Jésus avait annoncé que les serviteurs ne seraient pas plus grands que le maître. Et les difficultés de la vie atteignent aussi les croyants, les persécutions les touchent. Mais il y a une glorieuse et mystérieuse espérance qui pousse le croyant véritable à vivre tous les jours sous le regard de Christ, dans la persévérance de son prochain retour. Et ça, c'est la lutte. En fait, Paul poursuit, il dit « si Christ est mort, il n'est pas ressuscité ». Parce qu'il est toujours dans cette idée. Hein. Il dit « alors ça sert à rien, on croit en rien. Alors pourquoi moi je le fais ?» Hein, ça c'est le 1 Corinthiens 15, hein, la lutte chrétienne, 29-32. Il va dire, hein, là je vous ai mis le verset 30. « Et nous, pourquoi nous sommes à toute heure en péril ? Et chaque jour, 31, nous sommes exposés à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Si c'est en des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul est en train de dire, je suis en train de m'agiter pour rien. Si Christ n'est pas ressuscité, hein, il pose des questions, hein, c'est rhétorique. Paul se met à la hauteur des Corinthiens. Vous savez, Paul était un érudit. Il dit, vous aimez discuter, on va discuter. Il pose des questions dans lesquelles il répond lui-même. Hein. Il ne demande pas une réponse. Mais il dit, moi, j'affronte tous les difficultés, moi et mes frères apôtres. Et mes frères prédicateurs itinérants, on risque nos vies? Tout ça pour rien? Tout ça pour quelqu'un qui est mort? Tout ça pour une cause morte? Là, il pose ces questions et leur dit, hein, quelque chose qui va pas ici. Quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose que vous ne cernez pas. Les difficultés sont supportées et supportables car Christ est vivant. L'évangile est toujours annoncé véritablement. Il a véritablement changé les vies car Christ est vivant. Paul assure que Christ est vivant parce qu'il dit sinon, il le dit, hein, mangeons et buvons. Il se sera arrêté quelque part et puis il aurait mangé. Mais ça brûle au dedans de lui parce que il sait la vérité de l'évangile, il connaît cette portée. Et il dit, les Corinthiens, vous risquez de vous corrompre par vos idées, de vous asseoir et de manger et de boire et d'attendre la fin. Il dit, non, Christ est vivant. Attention. Et je vais m'arrêter un petit instant, j'étais obligé de le faire pour le verset 29 est souvent déformé, hein. Donc je m'arrête un peu sur ce verset, 1 Corinthiens 15, 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser par eux? Donc voilà, il y a plusieurs interprétations. Je vais vous donner celle que je pense être la mieux. Après, voilà, vous en faites chacun, examinez tout et retenez ce qui est bon. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Alors, c'est un passage un peu délicat dans les traductions. Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul? Il dit qu'on peut se baptiser pour les morts, pour les autres non-croyants, et... du coup, on amène le salut à eux par notre baptême. Ça, c'est ce que croient les Mormons, par exemple. Les Mormons, ils se font baptiser pour des membres de leur famille, hein, qui sont morts, ou qui sont pas croyants. Et du coup, comme ils se font baptiser pour eux, alors je sais pas combien ils ont le droit de baptême pour sauver, comme ça. Mais du coup, ils sont sauvés, même s'ils ont jamais cru. Voilà. C'est une de leurs explications de ce verset. Alors le problème, c'est que c'est un enseignement qui est pas biblique. Et que le texte grec d'origine, il est un peu tordu, le sens est tordu pour le faire rentrer dedans. Et le contexte n'est absolument pas respecté. Paul, il n'est pas du tout en train de parler de ça. Il est en train de parler de la résurrection corporelle de Christ, du besoin de s'accrocher à ça, du besoin aussi de montrer que les fruits qu'il porte montrent que Christ est ressuscité, pas que de le croire sur parole, mais il dit « moi j'affronte tout ça, je suis capable d'encaisser tout ça, vos frères et sœurs aussi, parce que Christ est ressuscité ». Parce que Christ est vivant. Alors, il y a le deuxième, hein, c'est le baptême à l'exemple des chrétiens morts en martyrs. On prend leur place. Voilà, ils sont morts, donc ils ont laissé une place vacante. Il y a, je sais pas, il peut y avoir que 2000 baptisés. Quand il y en a qui meurent, on prend sa place. Ou on prend la place de quelqu'un qui est mort parce qu'on a vu qu'il y avait une place libre. Voilà, c'est aussi, le problème, c'est que là aussi, c'est un enseignement qui va pas dans le sens du baptême. Et le texte aussi, pareil, hein, le texte grec est un peu tordu pour coller à cette place. Et le contexte du passage aussi ne va pas du tout dans ce sens-là. On ne parle pas du tout de personnes, voilà, on ne verrait pas trop le rapport de pourquoi les gens qui seraient morts en martyrs, on devrait les remplacer. Et une des dernières que j'ai lues, alors il y en a peut-être sûrement d'autres, hein, je ne vais pas faire le tour de tous ces versets. Vous savez, des fois, quand il y a un verset particulier dans la Bible et qui est un peu comme ça, il y a plein de théories. Alors moi, je vous en ai donné deux, trois. Hein, ça, les baptêmes se feraient au-dessus des cimetières où il y avait des chrétiens. Donc, ça serait au-dessus, la particule grecque. Et du coup, ils se feraient baptiser au-dessus des cimetières. Je trouve ça un peu glauque. Alors là, le truc, c'est que bibliquement, là, on n'est quand même pas du tout dans le cadre biblique. Là aussi, le texte, on lui fait dire au-dessus pour quelque chose qui ne veut pas forcément dire ça au départ dans la particule. Et alors là, le contexte biblique n'aurait rien à voir, enfin le passage du texte n'aurait rien à voir non plus, et surtout qu'il n'y a pas d'assise historique. Alors je l'ai mis entre parenthèses, parce qu'on a dit que ce n'est pas très important, mais quand même, on a quand même certains écrits des premiers siècles, des gens qui ont raconté comment se vivait l'Église, on n'a aucune preuve que l'Église est baptisée dans des cimetières un jour. Donc ça laisse quand même perplexe face à cette possibilité. Je vous laisse celle-là, c'est pas que moi, il y a aussi Henri Briat qui pensait ça, il y en a plein d'autres. C'est que le texte peut dire, le mot grec peut dire « en faveur d'eux, pour la cause d'eux ». Et en fait, il dit, Paul dirait, autrement, ceux qui se font baptiser pour les morts, pour la cause qui est morte, en fait. En faveur d'une cause morte. Il dit, si la cause, elle est morte, donc Christ est mort, notre foi est vaine. Donc pourquoi on souffrirait tout ça, pourquoi on continuerait à se faire baptiser pour une cause morte? Pourquoi on subirait tout ça pour une cause morte? Pourquoi on se ferait baptiser au nom d'un mort? Au nom de Jésus-Christ qui est mort. S'il est mort, sa cause, elle est morte. C'est ce que pensait le théologien d'ici Schweizer qui disait quand Christ est mort à la croix, il est mort avec tout, toute sa volonté de changer le monde. Parce que pour lui, Christ n'est pas ressuscité. Donc voilà, il dit à quoi ça sert ? Mangeons et buvons, parce que la cause qu'on sert, c'est une cause morte. Et si c'est une cause morte, voilà, moi, ça irait dans l'enseignement, dans un bon enseignement biblique, dans le sens où Paul pose cette question, il dit, qui se ferait baptiser pour une cause morte ? Qui risquerait sa vie pour une cause morte ? Parce que même les gens qui croient en autre chose, ils le croient. Aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui vont martyr. Oui, mais ils croient ce qu'ils font. Alors, ils croient mal, mais ils le croient. Leur cause est une mauvaise cause, mais ils la croient quand même. Alors que là, ils croiraient en rien. Ces gens-là ne croiraient en rien. Et il dit, ça sert à rien. Autant ne rien faire, si Christ est mort. Autant ne pas subir. Et ça collerait au contexte de son propre exemple. Il dit, pourquoi moi je subirais tout ça si c'est pour rien? Si j'espère que dans cette... Il le dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse, quel est mon avantage? Donc là, ça collerait avec le texte. Ça déforme pas le texte d'origine et ça reste cohérent avec l'enseignement qu'on connaît de Paul et d'autres sur le baptême. Donc voilà, j'ai fait un point un peu long, mais il y a des difficultés parfois dans la Bible, il y a des passages délicats, mais voilà, on vous propose, on passe pas dessus. Voilà, après vous pouvez trouver une autre explication qui vous convient. Mais je pense que c'est important parce que Paul réfute ces arguments qui nient la résurrection des corps, donc Christ ressuscité une fois vaine, et il dit, vous risquez vos vies pour rien. Il dit, tous ceux qui sont morts avant sont rien. Si une cause est morte, pourquoi la poursuivre? Et dans Actes, on a vu, Gamaliel qui prend la défense des apôtres, il leur dit, ne prenez pas le risque de battre contre Dieu. Il dit, si cette nouvelle secte, entre guillemets, si cette nouvelle croyance vient des hommes, elle va tomber. Elle va tomber d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la combattre. Et voilà ce que croyaient les Corinthiens, ça peut alimenter notre manière de vivre. Des fois c'est visible, des fois c'est invisible, en tout cas ça alimente notre manière de vivre. C'est pour ça qu'après il va dire, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça c'est le verset 33 et 34, revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je vous le dis à votre honte. Voilà, Paul souligne, il fait le lien, il dit, des personnes ne connaissent pas Dieu, ils nient que Christ est ressuscité, et vous les côtoyez, et quand vous les côtoyez, vous corrompez vous-même votre propre croyance. Mais il dit, c'est pas perdu, revenez à vous-même. Ne péchez pas par cette mauvaise croyance, parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Il dit, à votre propre honte, dans le sens, vous auriez dû, vous, Église de Corinthe, voir que ces gens-là ne connaissaient pas bien Dieu. Non pas pour les accuser, mais pour les reprendre et les enseigner. Il dit, ne vous laissez pas influencer comme les Corinthiens se laissaient influencer par certains hellénistes, donc les gens qui peuvent la pensée grecque. Vous avez vu, l'église de Corinthe, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle aimait beaucoup l'érudition, les choses intellectuelles, les philosophies. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Jésus-Christ. Ils philosophaient tout avec leur filtre de la culture. Et c'est pour ça qu'il leur dit, non, attention, l'évangile, c'est autre chose. Croyant, saisissons-nous la puissance de la résurrection, au point de ne plus craindre les difficultés de la vie. Pas de les aimer, mais de ne plus les craindre. Même si elles sont réelles, les luttes et les combats ne peuvent nous faire perdre notre espérance dans ce qui vient. Et ça, c'est tout le message de la fin de ce chapitre. Il leur a annoncé tout pourquoi il faut croire, pourquoi c'est important, pourquoi des gens payent de leur vie pour un Jésus qui est ressuscité corporellement. Mais Dieu, est-ce qu'il y a une glorieuse espérance? Il leur dit, il y a vraiment glorieuse espérance, ça c'est ce qu'on vient de voir, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il leur dit, triez un peu de vous-même. Et l'espérance du croyant, c'est la résurrection corporelle. Et là, Paul, comme à son habitude, il connaît l'église des Corinthiens, je pense qu'il la connaissait bien, il va répondre aux questions qu'on ne lui a peut-être pas posées, de manière rhétorique, pour court-circuiter un peu ceux qui pourraient se moquer à la lecture de la lettre de la résurrection des morts. Vous savez, quand il avait lu à Athènes, il avait parlé à Athènes, jusqu'à ce qu'il parle de la résurrection des morts, on l'écoutait. Dès qu'il a parlé de la résurrection des morts, oui, on t'attendra sur autre chose. Et il y a un blocage culturel. Et Paul connaît un peu les Corinthiens, il leur dit, moi je vais vous écrire, et je vais vous montrer. Et ça c'est 1 Corinthiens 15, 35 à 41. Il leur dit, mais quelqu'un dira, il suppose que quelqu'un va dire dans l'assemblée, comment les morts ressuscitent-ils, avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui renaîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou des quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Voilà, il prend l'exemple. Il prend plusieurs exemples que les Corinthiens connaissaient, la graine, la plante, les astres divers de la création. Il dit, vous, vous voyez le corps comme une prison. Et du coup, vous vous moquez de ceux qui croient à la résurrection des corps. Et vous dites, non, Dieu, il n'a pas pu ressusciter son fils dans un corps. Regardez comme il est notre corps. Parce qu'il voit le corps comme il est maintenant. Comme je vis dans mon corps. Avec tous les problèmes qu'il y a, avec le péché, avec le terrestre, comme dira, inscrit. Et Paul dit, non, attention, vous confondez quelque chose. C'est différent. C'est quelque chose de différent. Paul y poursuit, il dit, ce n'est pas une prison. Vous pensez déjà que le corps est une prison. Moi, je vous le dis. Comme la larve devient un papillon, les deux sont de même nature et pourtant ils sont tellement différents. Il dit, comme le grain de blé, s'il ne meurt pas, il porte pas de fruits, ça c'est ce que Jésus dira. Mais ils sont tellement différents quand vous avez des grains, que vous les plantez et que ça donne une plante. On se dit, waouh, la différence. Et pourtant, à l'intérieur même de cette graine, il y a déjà toute la plante qui existe, mais qui n'est pas encore formée. Et c'est ce qu'est en train de dire Paul. Il dit, vous avez un corps qui est pour l'instant pas glorieux, dans le sens de la gloire de Dieu, mais ça viendra. Mais ça viendra. Il dit, Dieu n'est pas limité par votre limitation. Ça, c'est un truc que moi aussi j'ai appris à reconnaître. Dieu n'est pas limité par ma manière de comprendre et de voir. Moi, je suis limité en disant, mais comment on peut ressusciter des corps glorieux? Comment ça sera? Et tous ceux qui ont disparu en mer et... Mais Dieu, il n'est pas limité. Vous savez, nous, on a le Dieu de l'impossible. Il y a des dieux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais le nôtre, il peut tout faire. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, attention, vous, posez pas ces questions. Parce que c'est quelque chose qui est mystérieux dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, c'est une mystérieuse espérance que Christ nous donne. Comme il est ressuscité, vous ressusciterez aussi. Mais avec un corps glorieux. Et vous devez l'accepter. Non pas sans preuve, mais en regardant autour de vous la plante qui part d'une graine, la larve qui devient un papillon, les astres, toutes les étoiles, il n'y en a pas une identique. Il dit, voilà, où est la limite de Dieu, Corinthiens? Où est la limite de Dieu ce matin à l'église de Wittenheim? Il n'y en a pas. Dieu révèle ce mystère. Et le corps de Christ et les prémices, il leur dit, oui, il y a quelque chose de nouveau. Et il dit, voilà, il y en a besoin, parce que la résurrection des morts, c'est à cause de la corruptibilité de nos corps. Et il dit, il faut que nos corps soient incorruptibles. Il faut qu'il y ait des corps incorruptibles. Et on en a besoin. Et il dit, pour l'instant, on les a pas. Il en est conscient. Mais il dit, ça va venir. Et c'est ça, cette espérance. C'est pour ça que vous allez vivre différemment avec cette espérance. Plutôt que de pas la croire. Et Paul leur dit, Christ, c'est vraiment ce prémisse. Il dit, maintenant, vous avez besoin des nouveaux corps parce qu'ils sont pas... La finalité de la vie qui arrive, c'est la vie éternelle. Et il dit, dans la vie éternelle, vous aurez besoin d'un corps incorruptible. Et ça, c'est 1 Corinthiens 15, 42, 53, il dit le besoin du nouveau corps. Voilà, il dit, Christ est vivant dans un corps nouveau. C'est l'espérance, Paul le rappelle. Il dit, c'est une promesse de réconciliation. Voilà, il a donné les exemples de la nature. L'apôtre souligne la corruption du corps présent. Il dit, maintenant, vous avez vu, nous, on a un corps qui a besoin d'être changé, un corps qui a besoin d'être à l'image de Christ. Et il reprend l'exemple d'Adam. Il dit, comme Adam était tiré de la terre, on a porté son image, l'image de la terre, du terrestre. Il dit pas que la terre est pas bien. Il dit qu'on a porté cette image. Il dit, maintenant, vous êtes de Christ, mais Christ, il est du ciel, il est du céleste. Et il dit, vous allez du coup avoir ce nouveau corps. Vous allez avoir un nouveau corps qui est celui de Christ. Il dit, vous aviez eu la faiblesse en Adam, vous aviez la gloire en Christ. Et c'est pour ça qu'il oppose les deux. Il dit, Adam, c'était le royaume de la terre, et maintenant vous êtes le royaume de Dieu, et ça c'est en Christ. Nous sommes dépositaires des mêmes promesses que les Corinthiens. Et c'est dans ce corps qui ne peut plus se corrompre, ni par le péché, ni par la maladie, ni par la vieillesse, ni par le handicap. Mais c'est un corps nouveau qui va venir. C'est l'espérance, et croyez-moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes très riches qui voient la mort arriver recherchent cette immortalité. Alors, il la recherche pas par la Bible, hein, mais le refus de vouloir vivre dans un corps qui se corrompt par rien que par la vieillesse. Et il dit, ça, c'est la puissance. Je trouve espérance des croyants que nous sommes. On en a parlé avec mes enfants, ils disaient, waouh, ouais, ça va être incroyable. Les gens qui seront malades, ils seront plus malades. Celui qui a jamais eu de main, il aura une main. Celui qui était dans un fauteuil roulant, il se lèvera. Et je fais ça, c'est la glorieuse espérance des enfants de Dieu. Un corps nouveau, mystérieux. Paul ne dit pas, il sera comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, non, ça sera mystérieux. Mais on aura un corps qui sera à l'image de Christ, mais qui sera, on pourra le toucher. Et Christ, quand il est apparu à ses apôtres, il leur a dit « Shalom Alechem », donc la paix soit parmi vous. Ils ont eu peur, ils ont dit « Oh là, c'est un esprit ». Mais il a dit « Ils l'ont touché, après il a même mangé ». Il fallait les rassurer, les assurer d'une vie corporelle. Il y a une continuité et discontinuité entre le corps que nous avons et le corps que nous aurons. Ça, c'est le grand mystère. Mais en tout cas, Paul termine par cette espérance vivante, la victoire totale de Christ sur la mort et le péché. Ça, c'est vraiment, il enfonce un peu le clou, hein. Il termine ce bel argumentaire, il dit, oui, il y a un mystère. On n'a pas les explications, il y a quelque chose de mystérieux, mais vous êtes maintenant le peuple de Christ, vous avez cru en Christ, vous serez ressuscité avec lui dans ce corps, comme vous aviez eu le corps d'Adam. Et je dis, ça c'est le 1 Corinthiens 15, 54-57, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la Paul, il est en train d'appuyer des vérités. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, ben vous, ça sert à rien, en fait. Donc oui, il est ressuscité, oui, il est vivant, oui, il vit dans un corps, et vous-même, un jour, vous aurez cette victoire en Jésus-Christ. Et il dit pas, nous, on l'a, hein. Grâce à Dieu qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est par son œuvre. On est dépositaire de l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Il dit, il est vivant, sinon plus rien n'a de sens. Et ça, il renvoie au début du chapitre 15. Et Paul annonce que c'est par cette résurrection, c'est aussi quoi? C'est aussi le sceau de sa victoire totale. Si Christ était rester mort, la mort aurait toujours le dernier mot, et le péché aussi. Il a dit non, il est aussi ressuscité parce qu'il a tout gagné. Mort, ça n'existe plus. Péché, ça n'existe plus. Ou le mal. Parce qu'il les a portés à la croix, et il est ressuscité. Et il dit, aujourd'hui, Corinthiens, quand il écrit cette lettre, vous avez cette espérance, vous avez la victoire sur le péché. Donc votre manière de vivre, elle change. Il n'est plus question de vivre autrement parce que vous avez la possibilité en Jésus-Christ d'avoir la victoire. Alors la victoire sur la mort, parfois, si Dieu le permet, mais en tout cas la victoire sur le péché, ça c'est tous les jours. Et vous voyez à quel point c'est important de croire certaines choses ou pas, à quel point ça peut nous influencer et nous faire changer de manière de vivre. Paul leur dit que vous avez pleinement un corps qui va être changé, qui va revêtir. Donc il nous demande aussi de prendre soin de ce que nous avons pour la suite, et tout cela ne nous laisse pas insensibles, mais nous pousse, et c'est la fin, hein, persévérance du croyant, tous les jours. C'est ce qui termine, hein, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés. » J'aime beaucoup Paul, hein, parce que malgré tout ce qu'il leur dit, malgré tous les travers de cette église, « Ainsi, mes frères bien-aimés. » Ah, il les aime quand même. Et c'est aussi ses frères. « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Là, il est en train de résumer tout ce qu'il a dit. Il résume d'être ferme, de ne pas se laisser influencer, de travailler parce que Christ est mort, ressuscité et vivant, et donc leur travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Ça décourage pas. C'est pas une cause morte. Il dit, Corinthiens, ne vous relâchez pas. Faites le tri chez vous. Grandissez, apprenez de Dieu. Tout ce que vous faites en son nom, c'est pas inutile. Vous avez des belles promesses en Christ, hein, ils viennent le rappeler, la résurrection à laquelle vous êtes promis et que vous allez partager. Nous sommes invités, nous aussi, à continuer cette marche. Ce matin, même quand c'est dur, tu es invité à poursuivre cette marche. Paul exhorte, hein, face aux luttes, face aux diverses influences, face au péché, il dit, vous avez la victoire car Christ est corporellement ressuscité. Il dit, ça c'est encourageant. Quand je préparais Je me suis dit, waouh, Paul nous encourage à rester ferme dans la foi. La foi vraie, la foi pure, la foi apostolique qui vient de ceux qui ont été mandatés. De pas donner crédit à toute vente doctrine qui pourrait me séduire. On en parlait, hein, l'évangile de prospérité, c'est bien, ça marche bien parce qu'on te promet richesse, on te promet santé, mais qui ne refuse ça? Faut être fou. On te promet que t'as pas de problème. On te promet que Dieu est un Dieu qui distribue. Que les bénédictions. Jamais les exhortations, jamais autre chose. Donc forcément, tout le monde veut finir riche et en bonne santé. Pourquoi j'irais, moi, affronter les bêtes d'Éphèse, comme disait Paul? Ça sert à rien. Autant que je reste chez moi. Et là, il leur dit, voilà, faut pas se laisser décourager. Faut pas se laisser séduire parce qu'on pense être juste. Mais de tout examiner à la lumière de l'évangile, tels les juifs de Béret, hein, dans Actes 17, qui regardaient à la lumière des Écritures ce que racontait Paul. Il dit, attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que dit est vrai? Voilà, et pour conclure, hein, ne nous laissons pas influencer, ça c'est le grand débat qu'il y avait, le grand malheur, j'allais dire, un des grands malheurs qu'il y avait dans l'église de Corinthe, cette influence, ces cercles d'influence qui perturbait la pureté de l'évangile. Et un appel à être différent, hein, c'est pour ça, c'est corinthien, on a vu, hein, c'est être différent. Votre vie en Jésus-Christ doit se voir. Vous êtes différent. Et c'est ce qu'on croit ce matin. Est-ce que tu crois ce matin que Christ est corporellement ressuscité? Et si c'est vrai, comment tu vis? Comment vivre ta foi? Comment ça change? Parce que si Christ n'est pas revenu à la vie dans un corps nouveau, alors notre foi, nos œuvres, nos prières, notre baptême, tout ce que je viens de dire, ça sert à rien. Rentrons chez nous tristement. C'est ce que dit Paul, hein, de manière un peu ironique. Il dit, ben, mangeons et buvons, ça sert à rien. Mais là, il nous a pas laissé orphelins. Et on est dans la Pentecôte, hein, c'est ce don du Saint-Esprit qu'il avait promis à ses disciples, qui est une vision véritable de sa résurrection. Et tous ceux qui ont été touchés par Jésus-Christ ont eux aussi vécu ça, ce Saint-Esprit qui nous convainc, ce Saint-Esprit qui nous montre à quel point on était pécheurs, à quel point le Seigneur nous a aimés et qu'il a porté à la croix. Et ça, c'est une réalité qu'on a dans nos vies. Et toutes les promesses qui vont avec d'un corps nouveau qui vient. Donc, aujourd'hui, nous avons cette espérance que Christ est vivant dans un corps de gloire. Alors, vivons-le tous les jours, espérant en ses promesses acquises par son sang et sa résurrection. Puissions-nous alors dire, comme l'apôtre, le même, Paul, Christ est vivant. Il écrit à Timothée, dans 2 Timothée 4, 7 et 8, c'est quasiment la fin de sa carrière, j'allais dire. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ça, je trouve que c'est une glorieuse espérance, c'est-à-dire que nous aussi, je ne sais pas vous, mais moi j'attends avec espérance sa venue, son retour, mais en attendant, que je garde la foi, que je termine la course, car Jésus-Christ est vivant.